Poker Menteur.
Poker Menteur.
Avec Patrick Trouillou dans le rôle de Patrick Trouillou
et Franck Bonnet dans le rôle de Franck Bonnet.
Poker Menteur.
Poker Menteur.
L'émission qui interroge le monde
de Villefranche à Tataouine.
Galade 100.9.
Auditeur de Calade, bonjour, c'est Poker Menteur, votre émission mensuelle préférée. Aux commandes, Patrick Trouillou, comme d'habitude, notre compère Franck Bonnet est en train de vivre des aventures de par le monde, hein, d'accord, on n'a pas trop d'informations, mais on m'a dit qu'il était en train de préparer le marathon de New York, donc tant mieux pour lui, mais en même temps, ça me paraît un peu bizarre, vu son âge et son état physique un peu moyen. C'est peut-être une fake news, on ne sait pas, à suivre. Alors, de quoi allons-nous parler aujourd'hui? Eh bien, le point de départ de notre sujet d'aujourd'hui, c'est une réflexion que je m'étais faite il y a quelques temps. L'idée est qu'en fait, les utopies sont plus tellement à la mode aujourd'hui. Hein, d'accord, évidemment, l'utopie communiste a un peu tourné en cacahuète, sans parler d'autres utopies. Et pourtant, on a besoin d'utopies. On a besoin d'idées comme ça qui nous tirent vers l'avant, même si c'est sur du moyen terme. Et justement, j'ai trouvé une utopie qui est revenue un peu dans l'actualité depuis quelques temps, disons depuis 4-5 ans. Et j'ai décidé d'en faire une émission parce que j'ai rencontré une personne qui est extrêmement compétente sur ce sujet. Je vais lui laisser la parole. Bonjour Lydie.
Bonjour.
De quoi allons-nous parler aujourd'hui alors ?
Donc on va parler de revenu de base.
Le revenu de base. On va découvrir, prenons notre temps, ce que c'est. Hein, pour l'instant, suspense. C'est une utopie, mais c'est une utopie vers laquelle on peut se rapprocher petit à petit. Alors, Lydie, avant qu'on se lance dans ce sujet, tu peux nous dire un peu plus en détail qui tu es, comment tu es venue à cette idée ?
Donc, je m'appelle Lydie, pour commencer. Je milite pour le revenu de base depuis 2013, en fait depuis la constitution du MFRB, le Mouvement français pour un revenu de base, qui a été constitué à l'occasion d'une initiative citoyenne européenne. Mmh. Qui avait pour objectif de communiquer autour du revenu de base auprès des citoyens européens et de récolter des signatures pour la mise en place d'un tel revenu de base en Europe.
D'accord, donc c'est une association qui se rattache à ce mouvement européen et qui se charge, sur le territoire français, de faire découvrir, faire connaître cette idée. Mais c'est quoi cette idée de revenu de base, bon sang de bois ?
Alors, le revenu de base, on a une belle définition au MFRB qui est assez indigeste, mais je vous la lis quand même.
Ah, on aime les définitions indigestes.
Le revenu de base est un droit inaliénable, inconditionnel, cumulable avec d'autres revenus, distribué par une communauté politique à tous ses membres, de la naissance à la mort, sur base individuelle, sans contrôle des ressources ni exigence de contrepartie, dont le montant et le financement sont ajustés démocratiquement.
Ok, c'est donc l'idée de distribuer un revenu à chaque Français, de sa naissance à sa mort, sans aucune condition.
C'est ça.
Voilà. Donc, idée révolutionnaire, d'accord. Eh bien, on va creuser cette idée, hein, parce que je dirais qu'elle fait débat, d'accord. Et elle a suscité beaucoup de débats, aussi bien à droite dans le champ politique qu'à gauche. C'est-à-dire que dans les deux champs politiques, on a des gens qui sont farouchement pour et d'autres qui sont farouchement contre. Alors, on va essayer de creuser un peu ça. Et on va commencer par une partie, on va dire... Bon, ok, d'accord. Partons sur l'idée de mettre en place un revenu de base. Pourquoi mettre en place un revenu de base aujourd'hui ?
Donc aujourd'hui, mettre en place un revenu de base, ça permettrait de réduire les inégalités, mmh. qui sont aujourd'hui importantes et de plus en plus importantes. Les écarts se creusent depuis beaucoup de temps et ça n'arrête pas. Donc on est face à des très riches et des très pauvres. Mmh. Et donc le revenu de base permettrait dans un premier temps déjà de redistribuer les richesses et d'éradiquer la grande pauvreté.
D'accord.
À minima.
Ouais, on a un premier point donc, qui est ce constat que je vais un petit peu préciser sur un plan historique. Si on parle des pays développés, il y a un constat qui est qu'à partir des années 80, il y a eu une réaugmentation des inégalités, alors qu'en fait, entre les années 45 et 75, dans les pays développés, il y avait plutôt une diminution constante des inégalités. À partir des années 80, les inégalités réaugmentent, en premier aux États-Unis, mais dans les autres pays européens, assez rapidement derrière. Étant entendu que la France a été quand même longtemps protégée de ce mouvement, puisqu'on considère que les inégalités ne réaugmentent en France que depuis le début des années 2000. Donc oui, c'est un premier constat, et il y a comme une tendance, un peu une sorte de polarisation de la société, je suis toujours dans les pays développés, qui est des riches de plus en plus riches, et puis le reste, une classe moyenne qui stagne, hein, d'accord, et puis des gens en précarité dont le nombre augmente assez régulièrement. Je pense que c'est un peu ce cadre qui correspond à ce que vous venez de décrire.
C'est exactement ça, oui.
D'accord.
On essaye du coup de permettre à toute cette classe moyenne qui, alors vous dites stagner, c'est une classe moyenne qui même régresse un peu.
Tout à fait.
Où aujourd'hui, beaucoup de Français ont peur pour leurs enfants, alors que pendant longtemps, on savait que nos enfants vivraient mieux que nous. Aujourd'hui, on se pose la question, est-ce que nos enfants vivront mieux que nous ?
Oui, tout à fait.
Et donc c'est quand même un peu inquiétant et ça conduit à beaucoup de stress, des dépressions, des comportements pas forcément souhaitables au sein d'une société. Et donc l'idée d'un revenu de base, c'est de, donc en réduisant les inégalités, de redonner de la confiance dans l'avenir et donc de permettre aux gens de faire des projets, d'être un peu plus tranquilles, etc. Quand on voit en Finlande, qui a expérimenté donc le revenu de base auprès d'un échantillon de chômeurs il y a très peu de temps, la première conclusion qui a été faite, c'est que les gens tout d'un coup sont sereins.
D'accord.
Voilà. Alors, ils ne sont pas mis tout d'un coup à travailler. L'objectif, au départ, c'était qu'ils se mettent à travailler plus.
Oui.
Ça n'a pas trop marché. Par contre, les gens étaient plus sereins et moins malades.
Voilà. Donc, tout ça, cet aspect de stress induit par la précarité, qui est cette angoisse du lendemain, est-ce que je vais avoir assez de revenus, où est-ce que je vais, il est au moins amorti par cette certitude. Avec ce revenu de base, je dirais, je peux assurer l'essentiel.
Voilà.
Me nourrir, me loger, en quelque sorte. Et construire de façon moins stressée, plus posée, un projet éventuel.
Voilà, c'est aussi l'objectif. Tous les endroits où le revenu de base a été expérimenté, notamment en Namibie et en Inde, il y a des expérimentations très intéressantes qui ont été menées. Et à chaque fois, l'activité économique s'en retrouve considérablement augmentée.
D'accord.
Et les populations ont des revenus qui augmentent d'un montant qui est supérieur à celui du revenu.
D'accord.
Puisqu'avec ce revenu, ils peuvent créer des activités, entreprendre, et du coup, l'activité économique s'en retrouve décuplée.
C'est une sorte de matelas qui permet, outre cette sécurité, cette baisse du stress, vous avez aussi parlé de l'aspect santé, donc de se maintenir en bonne santé, hein, de se soigner, parce que des fois, pour des raisons purement financières, on ne se soigne pas, et ça, c'est à terme, c'est pas bon, parce que ça ne fait qu'accentuer les pathologies graves. Mais ça permet aussi de créer, de mettre en place, de lancer des projets personnels.
C'est ça.
Quelque part. Et ça, on va aller vers un point, mais on aura l'occasion d'en reparler, qui est une des critiques souvent faites, mais un peu rapide, je dirais, de ce type de projet. C'est l'idée de dire, on donne de l'argent à ces feignants, ils vont rien foutre, quoi, en gros. Non, finalement, on leur donne de l'argent, ils ont des projets, ils font des choses.
L'humain a du mal à rester inactif. On n'est pas très inquiet là-dessus.
C'est vrai. Après, on déprime ou on devient alcoolique. Ok, d'accord, très bien. Donc, on vous partez sur cette idée d'un revenu de base, donc pour redonner un peu donc à la population, à l'ensemble de la population, mais aussi de fait à la population la plus fragile, et bien le moyen de se poser et de recréer quelque chose. Alors, votre association, vous vous êtes lancée donc en 2013. Elle a été créée en 2013 pour relayer un peu ce message. Avant qu'on développe un peu sur cette association, je voudrais venir préalablement à un autre point. Le terme revenu de base, en fait, il y a plein de termes qui sont utilisés vis-à-vis de cette idée-là. Pourquoi ce terme revenu de base a été retenu par votre association, ou pourquoi pas un autre ?
Alors, le revenu de base, on a utilisé ce terme qui n'est pas très joli, parce que c'est la traduction de basic income en anglais.
D'accord.
Et en fait, on est aussi adhérent du mouvement du bien, qui est le Basic Income Earth Network, donc qui est le mouvement mondial pour un revenu de base.
D'accord, ok.
Et donc la traduction littérale, c'est revenu de base.
D'accord,
donc,
ok.
Donc c'est pas forcément très très joli, mais c'est un terme qui est le terme mondial.
Ok, mais il y a d'autres termes qui circulent, revenu inconditionnel.
Voilà, donc il y a plein de termes, revenu universel, revenu citoyen, revenu inconditionnel, tous ces termes-là qu'on peut regrouper sous l'appellation revenu garanti.
Ouais.
Voilà, mais il y a plein de projets et chaque projet trouve son propre nom. Aujourd'hui, à Grande-Synthe, il y a le projet de revenu minimum garanti.
C'est où Grande-Synthe ?
Grande-Synthe, c'est dans le nord de la France.
Champion géographie.
Oui, qu'on entend. Oui, ils reviennent un peu sur l'actualité, souvent plutôt sur la question des migrants.
Ouais, d'accord.
Et là, on en parle pour le revenu de base. Donc en fait, ils ont mis en place déjà un projet de minimum social garanti, pardon. Et donc, l'objectif, c'est que personne ne vive avec moins de 850 euros par mois. Donc ils ont un revenu comme ça qui est versé à tous les habitants de Grande-Synthe, qui permet de compléter si jamais c'est pas le cas. Donc par exemple un RSA qui est à 460,
d'accord,
il y a un revenu qui vient compléter jusqu'à 850 euros.
Donc c'est au niveau d'une commune, Grande-Synthe c'est une commune.
Oui.
Et leur idée c'est donc de compléter les revenus de la personne à hauteur de 850.
C'est ça.
Ça doit être assez complexe quand même, hein, parce que ça nécessite qu'ils aient des informations sur les revenus de chacune des personnes. Donc ça doit être sur le plan administratif quelque chose d'assez lourd.
Alors pour l'instant c'est assez lourd parce que c'est une expérimentation qui est mise en place depuis moins d'un an aujourd'hui. Donc on n'a pas de retour, je peux pas tellement vous en dire plus sur les résultats. Et donc parce que c'est une expérimentation, c'est quelque chose qu'effectivement, qui n'est pas simple à gérer aujourd'hui. Mais l'objectif c'est bien sûr de simplifier ça.
Voilà.
Et c'est aussi un des avantages du revenu de base.
Voilà, parce que justement, à l'opposé de, on va le développer, hein, de cette idée de revenu de base, un des éléments forts de cette idée de revenu de base, c'est de dire on va simplifier en fait le maquis de l'existant en termes d'aide pour aller vers quelque chose. Bon, bah, ok, voilà, tout le monde touche une somme, et ben c'est pas plus compliqué que ça à gérer. Hein, c'est quand même beaucoup plus simple. Tandis que en rester, alors c'est très bien hein, le projet de Grande-Synthe, mais en rester à l'idée de dire on va compléter à hauteur de 850 euros, ça doit être une usine à gaz, au secours.
Alors pour l'instant ils font ça parce qu'ils n'ont pas le droit de faire autre chose. Aujourd'hui on sait qu'il y a 13 départements français qui voudraient mettre en place des expérimentations de revenus de base et ils n'ont pas l'autorisation du gouvernement pour le faire.
D'accord.
Aujourd'hui il est interdit en France d'expérimenter un revenu de base.
D'accord.
Où que ce soit, sous quelques conditions que ce soit. Donc en fait, Grande-Synthe, ils testent ça sans le tester vraiment. D'ailleurs, ils ne l'appellent pas comme ça. Ils ont tourné la chose de sorte qu'on ne puisse pas appeler ça un revenu de base, puisqu'aujourd'hui, c'est interdit de tester ça.
Ils sont passés dans les interstices de la réglementation pour arriver à tester quelque chose qui y ressemble, mais qui ne s'appelle pas comme ça.
Exactement.
On est d'accord. Très bien. Bon, bah, on ne va pas leur jeter la pierre. Hein. Ils font déjà un premier essai. C'est déjà pas mal. On va revenir donc à cette association, une présentation peut-être plus détaillée de l'association dans laquelle vous évoluez. Donc, tu évolues, pardon. C'est donc le mouvement français pour un revenu de base. Donc, MFRB, l'association. Alors, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur l'histoire de cette association?
Donc, comme je vous disais, créé en 2013, donc pour l'initiative citoyenne européenne. Ensuite, donc suite à ça, il y a eu la création de groupes locaux. Mm-hmm. Donc aujourd'hui, je ne sais même pas combien il y a de groupes locaux. Enfin, globalement, toutes les grandes villes de France, voire même villes moyennes, ont un groupe local pour le revenu de base, dans tous les départements.
C'est-à-dire qu'il y a combien de personnes dans la sauce française aujourd'hui?
Alors,
globalement.
Aujourd'hui, Il n'y a pas très longtemps, on était 800. Ça n'a pas tellement dû changer, je pense.
Ok, non, mais 800, c'est déjà pas mal. Hein.
Voilà, après, tous les adhérents ne sont pas actifs.
Oui, bien sûr.
Voilà, on a 800 adhérents. Hein. Et après, bon, là, les personnes actives sont en général actives donc dans des groupes locaux. Donc, on essaie d'agir surtout en local, en étant présent sur des événements, en parlant aux gens qu'on peut croiser. Mmh. On essaie de faire des choses assez, assez locales. Et il y a aussi un travail de commission qui se passe, du coup, qui est intergroupes locaux.
Ouais.
Avec des travaux sur le revenu de base agricole ou des gens qui seront plus spécifiquement sur l'action auprès des élus. Ou
d'accord.
Des travaux comme ça. Voilà, chaque commission peut avoir un travail un peu spécifique sur un sujet particulier et ensuite partage le travail réalisé auprès des militants.
Donc chaque commission et donc chaque groupe local qui a des commissions essaie de créer un peu des compétences dans des aspects précis de cette thématique globale pour faire avancer la compétence globale de l'association et son aspect force de proposition en quelque sorte.
Voilà, c'est ça. Et le rôle du MFRB est quand même surtout de communiquer.
Ouais.
De faire connaître l'idée.
Ouais.
On est le haut-parleur du revenu de base. Voilà,
ouais.
Avec la possibilité de répondre à tous les gens qui souhaitent. Il y a des organisations politiques qui font venir le MFRB au sein de leur colloque pour comprendre ce que c'est, en parler, etc. Il peut y avoir aussi, là, comme vous, voilà, une radio qui a envie d'en parler, qui propose au MFRB d'intervenir. On intervient auprès d'associations, on a discuté avec ATD Carmonde, avec plein d'associations autour de la pauvreté évidemment, ouais. Les partis politiques, donc on a tout le monde, hein, plein de gens nous ont invités, que ce soit le centre-gauche, le centre-droit, l'Europe Écologie Les Verts, on a fait des choses avec eux aussi. Donc voilà, on a ce rôle voilà, de partager l'idée, faire connaître et permettre aux gens de s'en emparer et de comprendre suffisamment l'idée pour faire leur propre projet.
Ouais, ouais. Parce que j'ai relié ça à la notion d'utopie en début d'émission. Je pense que c'est justifié, hein, je dirais. C'est une idée radicale, ambitieuse. Il est évident que la première étape consiste d'abord à la faire connaître. Hein, parce que même si on va le voir ensuite, hein, elle remonte assez loin. Hein, sa formulation remonte très loin dans le temps. Malgré tout, c'est quelque chose qui n'est pas connu du très grand public, en quelque sorte. Donc de fait, oui, il y a une étape indispensable qui est de la faire connaître. Aussi bien auprès du grand public, mais aussi auprès donc, des acteurs de la société civile, hein, que sont les autres associations dont vous parliez, que sont les partis politiques, etc., etc., pour ensuite faire un travail de conviction. Hein, en même temps qu'on fait le travail d'information, il faut faire un travail pour convaincre les gens de l'intérêt de cette question. Ok, donc on voit que votre association a établi hein, clairement des liens avec le plus d'organisations possibles pour essayer de débattre de ça, de propager cette idée. Pas de problème. Mais alors, je vais en venir à une question un peu plus personnelle. Vous, personnellement, pourquoi vous êtes rentré là-dedans ?
Alors moi, j'ai découvert
qu'est-ce qui vous a motivé ?
J'étais au lycée, j'avais, je pense, 16-17 ans, je ne me rappelle plus très bien. Quelqu'un m'a parlé de ça.
Ouais.
Et je me suis dit, ce serait génial, mais c'est impossible. Ça n'arrivera jamais.
Ce qui, en fait, c'est la première réaction de tout le monde.
Exactement.
C'est génial, mais c'est pas possible.
C'est une réaction
normale. Ouais, tout à fait. On commence par ça.
Et puis après, j'en ai plus jamais entendu parler pendant un moment. Et puis en 2013, je ne sais plus comment m'est revenue l'idée de ça. Et je me suis dit, mais tiens, au fait, cette idée, c'en est où ? Et donc j'ai fait un peu des recherches et j'ai découvert que je n'étais pas toute seule à trouver ça intéressant, qu'il y avait d'autres gens qui travaillaient sur le sujet et qu'en plus, il y avait le mouvement français pour la vie basse qui se lançait pile au moment où je me réintéressais à la question.
D'accord.
Donc c'est comme ça, je me suis dit, ben, c'est un signe, je vais adhérer à ce mouvement et militer pour cette idée qui finalement est tout à fait réalisable.
Alors je vais vous poser quand même une question complémentaire, mais encore plus personnelle puisqu'elle va remonter avant. Mais est-ce que vous étiez déjà une militante ? Est-ce que vous aviez déjà une culture militante avant ou pas ?
Non.
Non, pas du tout.
Pas
donc
vraiment.
C'était la première fois. On se lance dans une assoce où on va avoir un travail de militant, un travail actif en quelque sorte.
Ouais, en fait, avant j'ai jamais milité au sein d'un mouvement. Après j'ai toujours été quelqu'un d'assez quand les choses sont injustes, je le dis. J'ai toujours eu une âme un peu féministe et du coup c'est quelque chose dont je me cache pas. Mais adhérer à un mouvement comme ça, c'était la première fois.
Ouais, parce que c'est un pas important. Hein. On peut être féministe. Hurler contre les injustices, mais on peut aussi le faire en restant devant sa télé. C'est plus confortable.
Exactement.
Se lancer sur le terrain et agir, ça demande du courage et de la volonté. Donc, je trouvais que c'était intéressant de voir quand est-ce que vous étiez lancé. Vous êtes assez jeune, les auditeurs ne le voient pas, mais c'est donc c'est parce que ça fait 2013 aujourd'hui, ça fait quand même 7 ans maintenant alors.
Oui.
C'est bien. Ouais, ouais. C'est bien. On va peut-être faire une première pause musicale. Avec, si je me souviens bien, l'ami Georges Moustaki, qui va nous chanter une chanson dont on parlera après.
Je déclare l'état de bonheur permanent et le droit de chacun à tous les privilèges. Je dis que la souffrance est chose sacrilège quand il y a pour tous des roses et du pain blanc. Je conteste la légitimité des guerres, la justice qui tue et la mort qui punit, les consciences qui dorment au fond de leur lit, la civilisation au bras des mercenaires. Je regarde mourir ce siècle vieillissant. Un monde différent renaîtra de ses cendres. Mais il ne suffit plus simplement de l'attendre. Je l'ai trop attendu, je le veux à présent. Que ma femme soit belle à chaque heure du jour. sans avoir à se dissimuler sous le phare. Et qu'il ne soit plus dit de remettre à plus tard l'envie que j'ai d'elle et de lui faire l'amour. Que nos fils soient des hommes, non pas des adultes. Et qu'ils soient ce que nous voulions être jadis. Que nous soyons frères, camarades et complices. Au lieu d'être deux générations qui s'insultent. Que nos pères puissent enfin s'émanciper et qu'ils prennent le temps de caresser leurs femmes. Après toute une vie de sueur et de larmes et des entre-deux-guerres qui n'étaient pas la paix, je déclare l'état de bonheur permanent sans que ce soit des mots avec de la musique. Sans attendre que viennent les temps messianiques, sans que ce soit voté dans aucun parlement. Je dis que désormais nous serons responsables, nous ne rendrons de compte à personne et à rien, et nous transformerons le hasard en destin, seul à bord et sans maître et sans Dieu et sans diable. Et si tu veux venir, passe la passerelle. Il y a de la place pour tous et pour chacun. Mais il nous reste à faire encore du chemin pour aller voir briller une étoile nouvelle. Je déclare l'état de bonheur permanent.
Poker menteur.
Calade.
Vous écoutez Poker menteur sur Calade 100.9. Aujourd'hui, pour cette émission mensuelle, nous parlons d'un thème qui s'appelle le revenu de base avec notre invitée Lydie, qui est responsable locale de l'association Mouvement français pour le revenu de base. On va continuer un petit peu à découvrir ça, mais avant, un petit mot sur notre pause musicale. C'était donc Georges Moustaki, l'ami Georges Moustaki, dans un morceau qui s'appelait « Déclaration ». Alors moi, j'ai souvenir de Georges Moustaki, petite blague en passant, il y a une trentaine d'années qui avait fait une émission sur France Inter avec le regretté Pierre Desproges. Et Desproges lui avait dit, parce que bon, Moustaki chante assez doucement quand même, il lui dit « Georges Moustaki, quand vous chantez, est-ce que ça ne vous réveille pas ?» Je trouve ça assez génial. Bon, bref, revenons au revenu de base avec Lydie. Donc, nous étions d'abord dans une présentation de l'association, hein, présentation de Lydie de son parcours personnel. On va revenir à ce projet du revenu de base qui est en fait l'idée de verser de façon inconditionnelle un revenu à tous les Français de leur naissance jusqu'à leur mort, sans aucune conditionnalité que ce soit. Alors, maintenant, on va pouvoir rentrer un petit peu dans le détail de la mécanique et on va rentrer dans le détail d'un projet qui est celui du MFRB. D'accord ? Parce qu'en fait, il y a plein de projets, on pourra en parler plus tard, de divers projets, de diverses propositions qui sont dans ce domaine. Parle-nous, Lydie, du projet de MFRB à travers une première question qui est « Combien on verserait ?»
Alors déjà, le MFRB n'a pas de projet à lui.
D'accord.
La première déception. Le MFRB défend toutes les propositions de revenu de base qui sont conformes à la charte. La charte, c'est la définition que j'ai dit tout à l'heure.
Ouais.
Que je ne vais pas redire.
Non, c'est bon.
Voilà. Donc il y a plusieurs propositions. Mais globalement, on soutient exclusivement des solutions qui sont des solutions qui vont vers un revenu de base dit social.
Ouais.
On ne défendra pas des solutions libérales. Donc par pollution libérale, j'entends les solutions qui prônent des montants faibles,
ouais.
et qui sont souvent conditionnées en plus, et qui ont pour objectif de baisser les salaires, supprimer les aides sociales et privatiser une grande partie des biens communs.
Ouais, si tu le veux bien, alors évidemment, on va faire une petite parenthèse pour préciser ça, hein, avant qu'on se lance vraiment dans la description, parce que ça, c'est important. On n'a pas trop développé, mais on a vraiment expliqué que au jour d'aujourd'hui, cette idée retient l'attention de tout un tas de gens, aussi bien à droite qu'à gauche. Et donc, à gauche, c'est des mouvements divers et variés. On est un petit peu dans une philosophie qui est un peu conforme à ce qu'on a expliqué jusqu'à présent et ce qu'on va développer, c'est-à-dire apporter un revenu à toute la population pour éviter la précarité, pour permettre des projets, etc., etc. Mais c'est vrai qu'à droite, le courant libéral économique a été très intéressé par cette idée-là, mais il y a souvent un agenda caché dans la version libérale, puisqu'en fait, l'agenda caché, c'est quoi ? C'est dire l'État, alors là je vais parler du contexte franco-français et du contexte européen en général, mais encore plus fort en France, l'État post-Deuxième Guerre mondiale intervient massivement dans l'économie, a créé un système de protection sociale, et ça, d'un point de vue libéral économique, c'est pas bon, c'est pas bien du tout. Donc ils aiment pas ça. Donc ils se sont dit, comment faire pour convaincre tout le monde de démanteler ça ? Eh bien, il n'y a qu'à offrir en contrepartie un revenu minimum, revenu de base, on l'appelle comme on veut, par contre qui sera généralement dans les projets plutôt d'un montant assez faible, d'accord ? Mais en n'oubliant pas que la contrepartie, ça sera la suppression de toutes les aides, toute la protection sociale existante. Voilà. Donc ça, c'est la version libérale que tu évoquais, et tu n'es pas trop dans cette version-là. Donc je vais te redonner la parole, et on va aller vers cette idée de, malgré tout, essayer de construire un exemple de projet, et combien on pourrait verser mensuellement, on va dire, dans le cadre d'un projet.
Alors, donc déjà, je vais citer Baptiste Milondo pour clore le sujet droite-gauche sur le revenu de base.
D'accord.
Le revenu universel ne peut pas être une proposition ni de droite ni de gauche. Mmh. Il faut choisir. Soit il vise à réduire les inégalités et la pauvreté, soit il permet au contraire de les justifier.
Voilà, nous, ça c'est très intéressant, voilà. Cette citation, parce qu'elle est au cœur un peu de ce que j'ai expliqué juste avant. Baptiste Milondo, qui est une référence assez, assez incontournable sur la thématique du revenu de base en France.
Ouais, qui est à lire absolument pour les gens qui s'intéressent à la question. Mm. Et donc il prône un revenu de base assez élevé.
Ouais.
Sur lequel on est assez d'accord avec sur le mouvement français pour un revenu de base, puisqu'on estime que c'est un revenu qui doit permettre de se passer d'emploi.
D'accord.
Et donc il faut que ce revenu de base soit au moins égal au seuil de pauvreté, qui aujourd'hui en France est autour de 1000 euros. Mmh. Donc le revenu de base ne peut pas être en dessous de 1000 euros.
D'accord. Donc si on part sur cette idée, un revenu de base qui permette de se passer d'emploi, bah oui, il faut être à peu près au niveau du seuil de pauvreté, qui est aux environs de 1000 euros net. Par mois en France. Voilà. Donc là, ça pose déjà un projet assez ambitieux, hein, parce que généralement, dans l'ensemble des projets que j'ai vu passer de ci, de là ces dernières années, on est plutôt en moyenne un peu en dessous. On est plutôt entre 600 et 800 généralement.
Il y a beaucoup de projets, on peut accepter un projet à 850 euros, c'est déjà un projet intéressant.
Ouais.
Surtout que souvent, les projets qui sont autour de 800 euros, dans le financement, laisse quand même pas mal de protection sociale autour.
C'est ça, en fait, c'est toute la question. C'est, oui, mais qu'est-ce qu'on fait de l'existant ? Est-ce que ça vient en ajout de l'existant, en ajout total, en ajout partiel ? Ou est-ce que ça vient en remplacement qui, je vous l'ai dit, est plutôt la version libérale ?
Voilà, parce qu'un revenu à 850 euros, si les APL ne sont pas inclus et qu'on peut en plus toucher des APL, arrive au seuil de pauvreté. En fait, le montant est à peu près le même. Mm-hmm. Par contre, si on inclut les APL dans le revenu de base, alors il faut qu'il soit à 1000 euros, par exemple.
Mm-hmm. Alors là, en fait, ce que j'entends, c'est des hurlements à l'autre bout du poste. C'est pas vrai, hein, mais j'imagine un petit peu des gens qui disent « Ah, mais ça va coûter trop cher, comment financer tout ça ?» Calmez-vous, chers auditeurs, on va y venir, il faut faire preuve de patience. Donc, on y viendra plus tard. Est-ce que tu as d'autres éléments sur l'aspect du combien verser, ou est-ce qu'on passe directement à éventuellement le recensement de quelques expériences concrètes qui sont menées dans le monde entier ?
Eh bien, non, on va passer directement à ce qui se fait
D'accord.
dans le monde.
Avant d'examiner les objections qui viendront, en fait, il s'avère qu'il y a déjà pas mal d'expériences concrètes qui sont faites. Alors, pas à des niveaux, je dirais, des volumes colossaux en termes de nombre de populations impliquées, mais quand même, le nombre d'expériences fait que ça commence à être très intéressant en termes de retour d'expérience. Vas-y, on t'écoute, raconte-nous ça.
Alors, en termes d'expérience, il y a des choses qui se font dans le monde entier, hein, qui sont en Afrique, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, en Europe, en Asie. Il y a des choses un peu partout.
Ouais.
Et les conclusions sont en fait toujours les mêmes. On constate une baisse de la criminalité, une augmentation de l'activité économique, une augmentation de la scolarisation des enfants, une réduction des frais de santé. Mmh. Et voilà, après il y a d'autres choses, mais c'est globalement ça qui ressort.
Voilà. Ce qui est assez logique, parce que chaque élément, baisse de la criminalité, bah, à partir du moment où vous avez assez de revenus, vous n'avez pas besoin d'aller en chercher par des voies illégales. Amélioration de la santé, je l'ai dit tout à l'heure, hein, à partir du moment où on peut se soigner au quotidien, bah, on ne laisse pas s'aggraver des pathologies qui après, pètent à la figure de tout le monde, hein, en quelque sorte, en termes de gravité. Est-ce qu'on peut rentrer dans le détail éventuellement d'une ou deux expériences pour avoir des notions un peu plus concrètes? De quelle expérience tu voudrais nous parler?
Alors, je vous ai déjà parlé de la Namibie tout à l'heure, donc je ne vais pas en reparler. Mm-hmm. On va passer à l'Inde.
D'accord.
Donc en Inde, le projet a été mené dans plusieurs villages, mm-hmm. donc des villages parmi les plus pauvres du pays. Donc dans les partenaires du projet, il y avait l'UNICEF et ouais. un syndicat de travailleuses indiennes.
D'accord.
Et tout ça a été copiloté par un chercheur, Guy Standing, qui a pu du coup faire des travaux sur le sujet.
Et pour en analyser les effets en quelque
voilà,
sorte.
Voilà, exactement. Mmh. Donc c'est quelque chose qui a été réalisé dans la région du Madhya Pradesh.
Et ça a duré combien de temps, tu sais pas?
Et donc ça a duré pendant 17 mois.
D'accord.
Ce qui est assez court, ouais. mais souvent le problème de ces projets, c'est qu'ils ont des financements pour une durée limitée.
Ouais.
Et ensuite, une fois qu'on a trouvé que c'était génial, on arrête tout.
J'ai entendu d'autres exemples d'expériences. Alors, j'ai entendu une au Canada et une autre en Finlande aussi, si je ne dis pas de bêtises.
Alors, on parlera du Canada. La Finlande, on ne peut pas en dire grand-chose, malheureusement, mais
Pourquoi
on y reviendra. La Finlande, c'est très récent.
Ah, c'est trop récent.
C'est très récent. Mmh. Il y a eu très peu de gens concernés. Mmh. Et c'est un peu compliqué d'en tirer des conclusions. Et aujourd'hui, l'expérience est arrêtée.
Mmh. Et le Canada
Et donc, le Canada, c'est intéressant. C'était dans les années 60.
Ah ouais?
Pour le coup, ouais. Alors,
d'accord.
Ça, c'est un vieux. Où est mon papier?
Mmh. C'est une expérience très ancienne.
Très ancienne.
Canada.
Tout à fait. Une des premières expérimentations.
Ouais. D'accord.
Donc, le programme Mincom, qui a eu lieu à Dauphin dans les années 70.
Ouais.
Qui avait été fait, c'est pareil, c'est un programme de recherche. Hein, donc, mm-hmm. les gens avaient été étudiés pour voir ce qui se passait. Il y a eu un changement de politique en cours d'expérimentation. Tout s'est arrêté, tout a été rangé dans des cartons. Mm-hmm. Et aujourd'hui, c'est une recherche qui ressort que maintenant. Des chercheurs ont retrouvé cette expérience il y a quelques années. Et on constate que la plupart des gens ont continué à travailler. Mmh. Les seules personnes en fait, qui ont arrêté de travailler...
durant cette expérience.
Voilà, durant l'expérience, ce sont soit les mères célibataires, mmh. soit les personnes avec des parents malades ou des choses comme ça. Et donc souvent, mmh. c'est plutôt une réduction du travail qu'un arrêt complet.
Oui, d'accord. Oui.
Et puis les jeunes ont fait des études plus longues.
Ah oui, ça c'est intéressant.
Voilà, et comme je disais, baisse de la criminalité et des frais de santé. Voilà, c'est ce qu'on retrouve systématiquement. Il y a eu des choses aussi aux États-Unis dans les années 60, donc en 68 et 82.
D'accord.
Il y a plusieurs expérimentations qui ont été faites avec les mêmes conclusions.
C'est toujours à l'échelle d'un équivalent de commune en quelque sorte.
Souvent,
ça ne concerne pas un nombre de personnes très important.
C'est ça. Souvent, on est sur une commune et souvent, c'est au sein d'une commune les personnes les plus pauvres.
D'accord.
C'est rarement la commune complète.
C'est pas un essai vraiment dans la philosophie complète du revenu de base qui est de dire pour tout le monde de façon indifférenciée. C'est des essais ciblés.
Voilà, c'est ce qu'on peut reprocher d'ailleurs à toutes ces expérimentations. Mm-hmm. C'est que c'est jamais c'est ce qu'on appelle en saturation, c'est-à-dire mm-hmm. que c'est jamais toute la population qui touche ce revenu. Or, les comportements ne sont pas tout à fait les mêmes quand
ouais,
tout le monde
sûr.
Le touche
bien
que
sûr.
Quand on est 10% à le toucher. Mm-hmm. Voilà. Et pareil, quand on sait qu'il va y avoir une fin, on ne se comporte pas tout à fait de la même façon que quand on sait que c'est sûr pendant
voilà,
toute notre vie.
Voilà, que c'est acquis définitivement.
Oui, voilà.
Tout à fait, tout ça, ça fait des biais qui font qu'on ne peut pas être trop, trop péremptoire dans les conclusions qu'on en tire, en quelque sorte.
Voilà. Alors, cela dit, il y a quand même des choses qui existent et qui peuvent ressembler à ça, notamment chez les Cherokees aux États-Unis.
Oui.
Donc, les Indiens
Cherokees
se sont regroupés. Ils sont 16 000 aujourd'hui, c'est quand même pas rien.
Oui.
Et aujourd'hui, ils touchent tous les dividendes issus des profits des casinos.
Voilà, c'est ça. Ce qu'il faut expliquer, c'est qu'en fait, en amont, ils ont des territoires qui leur appartiennent, entre guillemets, hein, qui leur ont été concédés. et que sur ces territoires, ils ont eu des conditions fiscales particulières qui leur a permis de mettre en place en fait des casinos, hein,
c'est ça.
Type Las Vegas. Et donc, bah, ils l'ont fait. Et donc, ça marche pas mal. Et donc, ça rapporte des revenus intéressants.
Et bah, ils ont utilisé ces revenus. $6,000 par an et par personne.
Ouais, ils ont utilisé ces revenus pour mettre en place ce projet sur 16 000 personnes. D'accord. Et oui, là, ça commence à être assez significatif en termes de montant, puisque là, c'est pour tout le monde. C'est pour toutes les personnes de la zone concernée.
Toutes les personnes Cherokee touchent ces dividendes deux fois par an. Ils ont à peu près $3,000. Alors après, ça dépend des revenus. C'est un peu c'est pas fixe puisque c'est des dividendes. Donc
oui, ça peut évoluer d'une année à l'autre en fonction des revenus générés par les casinos.
Mais on est autour de $3,000 deux fois par an. Donc on est à $6,000 par an et par personne. D'accord. Depuis 1996. Donc c'est encore en cours actuellement et qui existe encore aujourd'hui.
Là, ce sera vraiment intéressant de faire des études approfondies sur les impacts, les effets de court, moyen et long terme.
Donc là, ce qu'on constate, c'est comme toujours, déclin de la pauvreté, déclin de la criminalité, déclin des abus d'alcool et de drogue.
Ouais, qui sont en plus des thématiques lourdes dans ces réserves, entre guillemets, hein, j'utilise des termes à l'ancienne, mais c'est des thématiques lourdes, on le sait, hein, y avait des vraies pathologies, des vrais problèmes dans ces populations-là.
Bah, c'est-à-dire que dans les populations pauvres, on se retrouve souvent inévitablement avec des problèmes de drogue et d'alcool parce que souvent il n'y a pas forcément grand-chose d'autre à faire et souvent il y a des fonds dépressifs importants qui sont sacrément réduits.
D'accord.
Et avec une augmentation du nombre de diplômés, on retrouve le sujet des enfants qui vont à l'école et qui font des études plus longues.
Ouais, d'accord. Ok, donc des acquis qui petit à petit apparaissent en termes de réduction des aspects négatifs de la grande pauvreté, hein, donc santé, criminalité, enfin activité illégale, mais aussi des aspects positifs avec la possibilité et l'utilisation concrète de ces revenus pour augmenter ses compétences, pour faire des études, et ça c'est important.
Et on constate souvent aussi une forte émancipation des femmes.
Ah oui, d'accord. Ça leur donne la possibilité de ne pas dépendre
comme le
du mâle dominant.
Voilà, comme le revenu est donné à la personne et non pas au foyer, les femmes se retrouvent de fait indépendantes, ce qui est rarement le cas dans beaucoup d'endroits du monde.
Oui, totalement. Ok, d'autres choses pour les expériences locales, non, pour finir?
Il y en a plein d'autres, mais à chaque fois, les résultats sont les mêmes, donc bon, ça devient un peu long.
Très bien. En France, il n'y a pas eu d'expérience là-dessus, hein, non?
Parce
que toi, on cite...
Il y a Grande-Synthe en cours, mais
voilà, il n'y a pas Grande-Synthe qu'on a évoqué.
Et puis, il n'y a pas officiellement une expérimentation.
De toute façon, après, le problème, c'est que si le gouvernement met le verrou en interdisant ça, on ne peut pas faire d'expérimentation, c'est clair.
C'est ça. D'accord. On n'a pas le droit.
D'accord, très bien. On va peut-être faire une deuxième pause musicale. On va écouter notre super ami, Didier Super.
En fait, la prochaine chanson, on a essayé de faire un vrai tube de merde pour les grosses radios à la con.
Empêche les autres de dormir.
Les gens qui pensent.
Mais qui c'est qui se gêne pas pour que les coches fassent des booms.
Les gens qui bossent.
Ils s'occuperaient de leurs enfants, y'aurait jamais de délinquants.
Les gens qui bossent.
Ils exploitent la planète, et puis tant pis si ça pète.
Les gens qui bossent. Oh, oh, ah bah les gens qui bossent. Oh, oh, oh.
C'est que de la racaille.
Les gens qui bossent, oh,
pour les nettoyer au Karcher. À cause de qui y'a que le dimanche qu'il y a les bons trucs à la télé.
Les gens qui bossent.
Qui c'est qui se dit vivement la retraite mais qui la touchera sûrement jamais.
Les gens qui bossent.
Qui c'est qui en a marre de payer des allocs aux immigrés.
Les gens qui bossent.
Et surtout à cause de qui y a pas de boulot aujourd'hui.
Les gens qui bossent. Oh, ah bah les gens qui bossent. Oh,
ils sont égoïstes.
Oh, ah bah les gens qui bossent. Oh,
heureusement y'en a de moins en moins. Ah, elle est dreadlocks, faut pas dormir hein.
Ils ont
J'ai peur de dire tout haut que les chômeurs ils sont feignants. Mais qu'est-ce qu'ils sont contents de pas être à leur place. Et puis tous les matins, ils prennent tous leur bagnole. Et du coup à cause d'eux, y'a la guerre en Irak. Oh, oh, à part les gens qui bossent. Oh, ils ont vraiment rien d'autre à foutre. Oh, à part les gens qui bossent. Oh, franchement y'a pas de quoi la ramener.
Bon, combien là? Oh putain les mecs, eh, on a fait 2 minutes 15 et le format c'est 2:30, 2:40. Eh, faut qu'on y retourne, ok? Allez, 3, 4.
Oh, ah bah les gens qui bossent. Oh, ils sont pas épanouis. Oh, eh, allez on se lâche. Oh, ils sont pires que les nazis. Oh, ah bah les gens qui bossent. Oh, eh, ils sont pires que les nazis, c'est des américains. Oh. Stop!
Eh hey, putain, eh hey, 2 minutes 52 les mecs.
Poker menteur.
Poker menteur.
Galade.
Vous écoutez Poker Menteur sur Calade 100.9. Aujourd'hui, nous parlons du revenu de base avec notre invitée, grande spécialiste de la question, Lydie, membre de l'association MFRB, Mouvement Français pour le Revenu de Base. Nous venons d'écouter notre grand ami Didier Super. J'ai toujours un principe, il faut toujours être ami avec les cinglés et avec les hurluberlus. Les cinglés parce qu'ils peuvent toujours vous mettre un coup de couteau dans le dos, et les hurluberlus parce qu'ils nous font rire. Voilà. Donc Didier Super dit, ah bah les gens qui bossent, mais pourquoi pas, même si vous bossez, ne vous sentez pas attaqué. Il y avait du deuxième degrés dans l'air. Alors Lydie, on va revenir à notre sujet qui, vous l'avez remarqué, est quand même pas complètement éloigné des affirmations de Didier Super. Ok, on va peut-être en venir maintenant, il fallait bien, à la question qui fâche. Mais bon sang de bois, comment on va financer ce truc? Ça va coûter la peau des fesses, c'est pas possible. Allez, vas-y Lydie. Convainc-nous.
Ça va coûter cher, mais comme tous les coûts, ce sont des revenus. C'est un coût d'un côté et c'est un revenu de l'autre.
Oui. Ça, c'est un point important en économie que même dans les médias officiels, on oublie de dire. C'est-à-dire qu'en fait, dans le système de protection sociale, quand on fait des prélèvements via des cotisations, des taxes, bah, ce n'est pas de l'argent qui finit dans les oubliettes ou dans les banques suisses détournées. Non, c'est de l'argent qui est réinjecté sous forme de prestations et donc qui va être utilisé dans le circuit économique pour de la consommation et pour faire tourner la machine économique. Donc de fait, oui, tu as raison, c'est pas qu'un coût, c'est aussi des revenus, donc ça va être utilisé, injecté dans la machine et faire tourner l'économie.
Exactement. Donc pour financer tout ça, donc on a plusieurs solutions.
Sortons la calculette.
Voilà, alors je vais vous donner plein de
chiffres. Oh, j'ai oublié un zéro.
Donc déjà, on va récupérer le RSA, parce qu'on n'en aura plus besoin.
Ouais, tout à fait.
Et plusieurs prestations existantes. Alors la question, voilà, est-ce qu'on sort les APL, est-ce qu'on ne sort pas les APL? Si on met les APL, ça veut dire qu'il faut qu'on augmente notre revenu. Si on ne le met pas, on peut le faire moins élevé. Donc mettons qu'on inclut les APL.
Oui.
Qu'on inclut pas mal d'aides. On peut aussi mettre les aides familiales.
Oui.
Tout ce qui est allocation familiale, puisque on en donne aux enfants aussi un revenu de base.
De fait. Donc il n'y a plus besoin de distribuer des allocs familiales. Les enfants auront leur revenu.
Alors souvent, les enfants, dans tous les projets quasiment, les enfants reçoivent moins que les adultes, puisqu'ils ont moins de consommation, moins de besoins. A priori, ils ne payent pas leur loyer.
Tout à fait.
Donc ils ont un revenu moindre, mais quand même, qui existe. Donc on peut supprimer les allocations familiales. Donc tout ça, on peut aussi... Ah oui, ce qu'on peut aussi enlever, c'est ce montant. Mettons qu'on donne 1 000 euros, ça fait ça de moins à financer avec les retraites.
Oui, d'accord, bien sûr, puisque ça sera jusqu'à la mort. Donc pas besoin de verser une retraite équivalente.
Donc la retraite, il y aura 1 000 euros déjà qui sont assurés. Au-dessus des 1 000 euros, ça sera ce qu'on aura cotisé pendant toute notre carrière. Ouais. Mais les 1 000 euros de base, déjà, on peut les récupérer dans ce pot commun-là.
Et pour information, je fais juste une petite parenthèse, notre ami Macron, moi je l'ai mis tout le monde, j'ai remarqué, notre ami Macron, dans son projet de réforme des retraites si populaire, a dit la retraite minimale sera de 1 000 euros. Alors on s'est aperçu qu'en fait ça, c'était dans les textes de loi depuis, 20 ou 30 ans, mais qu'en fait c'était pas appliqué. Mais deux, ça correspondrait donc à ce revenu de base de 1 000 euros que tu cites.
Voilà. On est d'accord avec Macron, ça c'est inquiétant par contre.
Ça arrive parfois, se méfier. Sur un malentendu.
Donc avec tout ça, là, tout ce que je vous ai dit, on arrive presque à 300 milliards.
Ouais, d'accord.
ce qui est quand même pas rien. Aujourd'hui, donc, le coût d'une mesure comme le revenu de base là, dont je vous parle, on est autour des 600 milliards. Donc déjà, on a la moitié.
Donc là, grâce à ce qu'on économise, on a déjà financé la moitié du revenu de base. On n'a plus que 300 milliards à trouver.
C'est déjà pas mal.
Bah ouais, on a résolu 50% du problème. Pensez positif, messieurs, dames. Hein. Voilà. Attention, il faut être positif dans la tête.
Ensuite, vu qu'on a un système de simplification administrative, ça va nous coûter beaucoup moins cher.
Oui,
donc
c'est
cette,
vrai.
Cette optimisation du système de protection sociale...
On va pouvoir virer les fonctionnaires.
Exactement.
Ils vont être contents, les syndicats.
Ils auront un revenu de base, ils vont faire autre chose avec.
Non, on les vire, on s'en fout.
Et donc, on arrive presque à 100 milliards d'euros.
Ah ouais ?
Voilà.
Ah ouais.
Donc là, on a déjà
400 milliards sur les 600.
Voilà.
D'accord.
Donc on a plus que 200 milliards à trouver.
D'accord. Donc là, on va piquer dans les poches de Mathieu, je pense.
Donc il y a une partie qu'on peut, donc on va récupérer en supprimant des niches fiscales.
Oui, oui.
Voilà. On va supprimer toutes les aides à l'emploi pour les employeurs.
Ah bah, ils vont être d'accord, les employeurs.
Donc les réductions de...
J'entends le MEDEF d'ici.
Les réductions de cotisations sociales sur les bas salaires, pourquoi ? Ouais. Donc ça, on enlève. Le CICE, ça nous coûte quand même très cher. Donc on enlève, on constate ça, on peut le récupérer pour financer un revenu de base. Et ensuite, on va avoir quand même un changement de politique fiscale. Évidemment, les gens qui ont des gros revenus, on va les taxer un peu plus que c'est le cas aujourd'hui.
D'accord.
Et ça permettra une répartition, une meilleure redistribution des richesses. C'est quand même l'objectif du revenu de base, c'est quand même de redistribuer les richesses. Donc si on laisse les riches aussi riches, ça n'a pas grand intérêt. Donc évidemment... Les personnes les plus riches vont devoir mettre dans le pot commun un petit peu d'argent.
D'accord. Et donc avec ça, ce dernier aspect, tu rajoutes combien ?
On était à 400. Donc là, on arrive avec les 200 milliards qui nous manquent. Voilà.
D'accord, ok. Alors, à t'écouter, là, je m'aperçois qu'en fait, les 400 premiers milliards, ça n'a pas l'air d'être trop problématique en termes de débat, hein, puisque bon, de fait, ok, on enlève ce qui fait doublon, on simplifie, etc. Ça va être les 200 derniers qui
Exactement.
Vont poser problème. Parce que là, derrière, il y a un vrai choix politique, mais c'est normal, la politique, c'est faire des choix. Et tout le monde n'est pas d'accord sur le même choix. Qui est d'aller à l'encontre, en gros, des politiques de l'offre, hein, j'utilise des langages d'économistes, qui sont en vigueur depuis la reconversion de Flamby, là, comme il s'appelait, Hollande, et sous Macron également. Donc là, ça peut poser problème. Là, clairement, il y a tout, comment dire, tout le pan politique de La République En Marche et de la droite réunie qui vont hurler et monter au combat, hein, contre ce projet. C'est clair.
C'est sûr, on ne va pas être tous d'accord. En politique, on est rarement tous d'accord.
C'est vrai. La politique, c'est le débat. Et puis après, on vote et on tranche.
Et l'intérêt d'une mesure comme le revenu de base, c'est qu'elle ne touche pas qu'une certaine partie de la population. Et c'est ce qui permet aussi d'avoir un meilleur assentiment. C'est que contrairement au RSA qui est touché que par certaines personnes, et donc c'est facile de dire « bah non, moi je ne veux pas payer pour ces assistés »,
Feignant.
Voilà. Et quand on touche soi-même le revenu de base, bah c'est difficile.
Ah, on est content finalement.
C'est nul. Alors évidemment, Bernard Arnault, qui va toucher son revenu de base comme tout le monde, il va payer un impôt supérieur à son revenu de base qu'il touche. Évidemment.
Donc, on avait l'idée d'alourdir les impôts sur les hauts revenus notamment. Donc
mais
de fait, on va le récupérer en impôt. Mais il touchera quand même.
Mais il le touchera.
C'est le principe. On est d'accord. Alors, on a compris, hein, bah, finalement, c'est pas mal, ça a l'air de tenir debout sur le plan financier. On va en venir aux objections, alors.
Voilà.
Les objections classiques, hein, d'accord, qui sont rencontrées. Alors, je vais commencer par la première, hein, qu'on a vaguement évoquée déjà. Il y en a plein qui vont être feignants, qui vont arrêter de bosser, quoi, de fait.
Alors,
franchement,
ça, c'est ce que tout le monde se dit.
Entre nous.
Et alors, c'est assez amusant, parce que quand on pose la question aux gens, et si vous aviez un revenu de base, qu'est-ce que vous feriez ?
Ouais.
80% des gens disent qu'ils vont continuer à travailler. Les 20% restants sont soit des personnes qui ont d'autres projets en dehors de l'emploi, soit des familles à charge, que ce soit enfants, parents malades, etc.
Voilà. Donc, en fait, ils arrêteraient de travailler, soit pour un projet précis, soit parce qu'ils ont une charge familiale, sociale, lourde à gérer.
Voilà. Alors après, il y a toujours 1%.
Et ça, c'est pas un pourcentage énorme de
population. Ils vont arrêter de travailler et puis ils verront après.
Oui, oui.
Voilà. Mais ça, il y en aura toujours. Et quand bien même, peut-être qu'au bout d'un an, ils s'ennuieront vite.
Un petit peu marre, ouais.
Donc, pourquoi pas ?
Donc, objectivement, les gens qui s'arrêteront vraiment de travailler, ils vont être une faible minorité.
Ça va être très peu de gens. Par contre, les gens qui vont travailler moins... Ça, il va y en avoir.
Oui, tout à fait. Mais peut-être qu'ils vont travailler moins pour produire une activité qui contribue aussi à l'intérêt général.
Oui, et puis ça tombe bien parce qu'on a plein de personnes au chômage qui aimeraient bien aller travailler. Donc
en plus.
Si les gens qui travaillent moins,
bah voilà,
peut-être
ça libérera
que ça fera
des
un peu de place pour tout le monde.
D'accord, ok, très bien. Première objection, bien défendue. Deuxième objection, on va payer les gens à rien faire. On n'est pas très éloigné de la première objection, hein, d'accord. Et de fait, on s'aperçoit que ne rien faire, bah, c'est très subjectif. En fait, ils vont faire des choses.
Voilà, évidemment. Même quelqu'un qui n'a pas d'emploi, même quelqu'un qui ne travaille pas au sens accepté classiquement du terme, va quand même avoir une activité sociale, économique, dans le monde dans lequel il vit. Ne serait-ce que quelqu'un qui va jouer aux cartes avec ses voisins, et ben c'est déjà super important dans le monde dans lequel on vit. C'est ce qui fait commun aussi.
Parce qu'il crée du lien social. Il contribue donc au fait que certaines personnes se sentent moins isolées, moins coupées de la société, donc moins sujet à de la dépression, à de la maladie, à du vieillissement, etc., etc. Derrière ça, en fait, il y a toute la réflexion qui est parfois menée autour de ce qu'on constate sur l'impact de l'activité associative en France. On sait que l'activité associative en France, c'est gigantesque, ça occupe un nombre de personnes incroyable. Et même si une très faible part de l'activité associative rentre dans le calcul officiel du PIB, donc la part qui est d'activité commerciale, c'est une très faible part. En fait, l'essentiel de ce que crée l'activité associative, c'est quelque chose qui n'est pas comptabilisé hein, dans les statistiques officielles de création de richesse. Et pourtant, ça a un impact sociétal absolument colossal. D'accord ? Donc en fait, la difficulté, ou pas la difficulté, mais l'enjeu, ce serait d'aller trouver des indicateurs qui permettent de rendre compte de ça. Et je pense qu'il y a quelques économistes qui doivent travailler là-dessus, ou sociologues, pour cesser de considérer uniquement ce type de projet, et puis de manière générale la façon de voir notre société, uniquement sous un prisme étroitement financier et économique, qui est beaucoup trop réducteur.
D'ailleurs, le revenu de base, un de ces projets, une des choses qui justifie le revenu de base, c'est de reconnaître à chacun sa capacité productive et sa fonction, son rôle dans la société. Donc voilà. La société reconnaît son existence son rôle productif, quoi qu'il arrive, en lui donnant un revenu de base.
Et tout l'enjeu est en fait de bien élargir la notion d'activité productive, en fait. C'est ça. Très bien, très bien. Autre objection, on va créer une société à deux vitesses. Alors ça serait possible dans la vision libérale du projet, hein, mais on sait qu'on ne s'est pas inscrit dans cette vision-là.
Exactement. Mais ça, effectivement, c'est une critique qui vient plutôt de la gauche. On va créer une société à deux vitesses, on va mettre des gens sur le bord du chemin, on va leur donner juste de quoi vivre et puis se nourrir, se loger éventuellement, et puis c'est tout. Et puis pendant ce temps, nous, on fera des trucs sérieux. Mmh. Et évidemment, c'est pas ce qu'on défend du tout. Mmh. Au contraire, on estime que d'avoir un revenu, ça permet d'être intégré à la société et donc d'avoir des activités dans cette société, et y compris le travail, l'emploi, les activités associatives, tout ça. C'est pas du tout l'idée, c'est pas du tout de laisser les gens sur le bord du chemin, bien au contraire.
Parce que l'idée d'une société à deux vitesses, ça pourrait être sur un plan financier, parce qu'on crée à travers un revenu de base très faible une partie de la population très précaire. Ça, c'est un petit peu la tendance à la polarisation de notre société actuelle, j'aurais tendance à dire. Mais après, s'il est situé à un niveau financier du type de celui que tu proposes, et si derrière on prend en compte toutes ces activités de création de richesse, mais au sens large du terme, ben non, on n'est pas sur de la société à deux vitesses. Autre objection, on va donner un revenu pour consommer. Ça, c'est pour les radicaux anticapitalistes.
Alors ça, c'est la critique écologiste.
On nourrit la machine capitaliste.
Voilà. Alors, on va donner de l'argent pour que les gens consomment, évidemment. Se nourrir, c'est consommer. Boire, c'est consommer. Acheter des biens de première nécessité, c'est consommer. Pour autant, on peut quand même limiter cet aspect consumérisme à outrance. Bon, déjà, on n'est pas sur un revenu... avec 1000 euros par mois, je vous rassure tout de suite, on ne va pas consommer.
On ne va pas être dans l'ultra-consommation non plus.
Personne ne va s'acheter un yacht, personne ne va s'acheter un scooter par mois. Il n'y a pas de danger là-dessus. Aujourd'hui, on sait très bien que les gens qui polluent le plus sont les riches, qui touchent le SMIC.
Tout à fait.
Donc, on n'est pas sur des consommations excessives. Après, il y a quand même des solutions, si vraiment on est très, très inquiet là-dessus, qui est de financer le revenu de base, non pas en numéraire, ou en partie en numéraire, mais de conserver une partie par extension du champ de gratuité.
Ah, d'accord.
Par là, donc on estime que tout le monde a le droit de se loger, donc le logement est gratuit. On estime que tout le monde a le droit de boire, donc l'eau est gratuite sur les premiers litres d'eau. Ensuite, au-delà, on considère que c'est de la consommation excessive. Par contre, là, c'est plein pot.
D'accord.
On considère que tout le monde a le droit d'accéder à de l'énergie, donc les premiers kilowattheures sont gratuits. On considère que tout le monde a le droit de se nourrir, donc une partie de l'alimentation est gratuite. Enfin, voilà. Et du coup, on réduit les montants du revenu de base, qui sont plus de 1000 euros, mais peut-être de 600, 700. Et il y a toute une partie qui devient, en fait, des droits d'accès à l'énergie, la nourriture.
Limité quantitativement.
Voilà.
Donc là, on est sur une variante du projet, mais on réintroduit un petit peu le côté usine à gaz là-dedans, hein, par contre.
Voilà, donc là, c'est un projet qui s'appelle la dotation inconditionnelle d'autonomie.
D'accord.
Et qui est intéressant, qui mérite quand même d'être étudié.
Ok, très bien. Bah, écoute, on a un petit peu fait le tour de ce projet de revenu de base. C'est très intéressant. On va passer à une petite conclusion. Alors, conclusion, qu'en est-il de ton association aujourd'hui ? Quels sont ses projets à court terme, ses ambitions ?
Alors, en ce moment, donc, le mouvement français pour un revenu de base est plutôt actif sur les soutiens aux projets d'expérimentation. Mmh. Et on est surtout... alors là, on a parlé de la France et tout ça. Aujourd'hui, le revenu de base, on le voit plutôt au niveau européen, au niveau français.
Ne serait-ce qu'à cause du blocage français, en termes d'expérimentation.
Oui, voilà. Et puis, ça aurait quand même plus de sens de mettre ça au niveau européen, ne serait-ce que pour des histoires de dumping social ou de... Mm-hmm. Voilà, toutes les frontières sont poreuses. Il n'y a pas vraiment de... Enfin, ce serait beaucoup plus logique, en termes de population, de faire ça au niveau européen. Donc, on est plutôt en train de défendre des projets comme ceci. Donc, on soutient les expérimentations. On dialogue avec beaucoup d'associations de lutte contre la pauvreté. Mm-hmm. Dans ces cadres-là.
Et politiquement, est-ce que vous vous accoquinez avec une force politique susceptible de relayer ce message ? Allons-y, allons-y.
Alors, jamais vraiment.
Venons-en, en fait.
On peut être là en conseil,
ouais.
On peut discuter, on peut expliquer, on peut dire non, ça ne va pas.
Parce qu'on se rappelle
Il n'y aura jamais écrit MFRB sur une affiche de parti politique.
Mais comment il s'appelait ? Hamon, c'est quoi son prénom, Hamon ?
Benoît.
Benoît Hamon, je l'avais oublié. Candidat socialiste malheureux en 2017, avait intégré un aspect qui n'était pas très, très, très abouti, mais de cette idée dans son projet.
Oui. Et c'était plutôt intéressant. D'ailleurs, merci à lui d'avoir fait connaître l'idée au grand public. C'était déjà ça, même si après la solution qui finalement était défendue n'était pas du tout celle qu'on défendait nous. Mais au moins, ça a le mérite de faire un débat public. Et là, bien sûr, le MFRB a été présent comme conseil à un moment donné. Ensuite, sur la fin, plus du tout, puisqu'il est parti vraiment loin de notre idée.
Ok, merci Lydie de nous avoir informés, fait découvrir cette utopie, mais qui est assez concrète finalement. Et bon vent à toi, bon vent à la MFRB.
Merci.
Poker menteur. Avec Patrick Trouillou dans le rôle de Patrick Trouillou
et Franck Bonnet dans le rôle de Franck Bonnet.
Poker menteur. L'émission qui interroge le monde
de Villefranche à Tataouine.
Galade 100.9. We'll be right back.